Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal, c'est avec patience. Ngalula Banangi.
Campagne de vaccination contre la variole des singes au Nord Kivu. Le lancement officiel a eu lieu hier à Goma. Les activités de vaccination proprement dites débutent dès ce lundi 7 jusqu'à jeudi 10 octobre. 48 000 personnes sont ciblées pour la première phase de cette immunisation contre le Mpox. L'Assemblée nationale a entériné hier samedi en plénière les groupes parlementaires et statué sur la répartition des postes des bureaux des 10 commissions permanentes de la Chambre basse du Parlement. Notre invité dans cette édition du journal nous vient de Kindu, dans la province du Maniema. Il s'agit de M. Waseka Kasumbi Mwalimu. Il est assistant principal directeur de l'université moyen Lualaba Kalima. Il parle des grands défis de cette université publique de l'État. Bonjour. Au Nord Kivu, 48 000 personnes ciblées pour la première phase de la campagne de vaccination contre le Mpox lancée hier à Goma. Cette vaccination va permettre à rompre avec la chaîne des transmissions. C'est le directeur des cabinets du ministre de la Santé qui a procédé au lancement devant les autorités sanitaires de la province. Cette campagne va se dérouler d'abord dans trois zones de santé les plus touchées de la province, Goma, Karisimbi et Nyiragongo notamment. Elle démarre le lundi 7 octobre jusqu'au 10 octobre prochain. Denise Loukesso pour les détails.
Pour la conseillère du gouverneur en charge des santé, 14 zones de santé sur les 34 qui comptent la province sont déjà touchées par la Mpox. Les risques restent donc potentiellement élevés au Nord Kivu qui a enregistré jusqu'à ce jour 369 cas confirmés dont 2 décès. Les zones de santé de Goma, Karisimbi et celle de Nyiragongo constituent l'épicentre de l'épidémie.
Les taux de mortalité étant de 5 à 25% avec une moyenne de 10%. Cette maladie mérite donc une attention particulière de tout un chacun et nécessite l'engagement de tous les secteurs sociaux pour une réponse efficace concertée. Faisons-nous vacciner, respectons les mesures d'hygiène et nous contribuerons sûrement à rompre la chaîne de transmission.
Notons que 2 doses seront administrées chez les adultes et 1 dose chez les enfants de moins de 18 ans. Cette première phase va aller du 7 au 10 octobre prochain, soit 3 jours. Cette première phase concerne d'abord les personnes prioritaires, les personnes de santé, les déplacés de guerre, les bouchers, les professionnels de sexe, les agents au point d'entrée et de contrôle et les vétérinaires, pour ne citer que celles-ci. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Le gouvernement congolais a délégué la ministre des Affaires sociales à Goma. C'est pour compatir et assister les familles éplorées par le drame du naufrage du 3 octobre dernier sur les lacs Kivu. Nathalie Aziza Munana, dans une mission humanitaire et sociale, dit venir évaluer les dégâts pour des solutions urgentes. Accompagnée du conseiller spécial de la première ministre et des gouverneurs du Nord et Sud Kivu, la délégation s'est rendue au port de Kituku, à proximité du lieu du drame pour exprimer leurs condoléances aux familles touchées qui continuent à affluer les lieux pour rechercher leurs proches. Encore une fois, Denise Loukesso.
Pour Nathalie Aziza Munana, cette visite témoigne de la volonté des autorités de répondre aux besoins urgents des victimes et de leur apporter un soutien moral et matériel dans cette épreuve. S'adressant aux membres des familles sur place à Kituku, la ministre nationale des Affaires sociales et humanitaires a assuré que les plongeurs seraient rapidement dépêchés pour récupérer les corps restés dans les eaux du lac Kivu. Elle a également rassuré aux familles que les soins des rescapés seraient pris en charge et que les corps des victimes seraient traités avec dignité.
Nous sommes en train d'évaluer d'abord pour voir, nous, gouvernement, comment sortir nos frères qui sont sous l'eau. Quels moyens que nous allons utiliser? Nous n'allons pas pleurer les gens qui nous ne voyons pas. J'ai pris et proposé des dispositions au ministère des Transports et des Sécurités pour voir quelles sociétés qui peuvent nous aider. Il y a la société Chani Metal et les services spécialisés qui vont venir de Kinshasa. Je me bats pour qu'ils arrivent même aujourd'hui. Les sociétés qui ont la logistique pour plonger très loin pour sortir ceux qui sont coincés dans les bateaux. Autre chose, les survivants et les familles qui sont restées, c'est ça, affaire sociale. Nous allons voir comment les assister. La délégation a visité les rescapés à l'hôpital Keshero pour s'assurer qu'ils recevaient des soins appropriés. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Entre-temps, contribuer dans la solution de la crise dans l'Est, c'est l'une des priorités de la coopération franco-congolaise. C'est ce qu'affirme Rémi Maréchaux, ambassadeur de la France en RDC, en séjour à Bukavu ce week-end, après avoir fait quelques rencontres au Sud et Nord Kivu avec des acteurs sociopolitiques. Ce dernier s'est fait sa propre idée pour une bonne analyse de la situation de l'Est et de la solution à apporter. Il l'a dit au micro de Rachel Kiesembangu.
Je suis arrivé à Kinshasa il y a simplement un mois. Avant, j'étais ambassadeur en Éthiopie. Et la principale priorité de mon gouvernement dans les relations avec la RDC aujourd'hui, c'est de contribuer à une solution de la crise dans l'Est. Et pour moi, si je veux contribuer activement, efficacement, il fallait que je vienne très vite dans l'Est pour rencontrer les acteurs et comprendre quelle est leur analyse de la situation, quelle est leur perception de la solution possible. Donc j'ai rencontré les acteurs de la société civile au nord et au sud Kivu, j'ai rencontré les autorités politiques, les autorités administratives. Ce matin j'ai vu l'évêque de Bukavu. Je multiplie les rencontres pour comprendre ce que les populations attendent, ça on le sait. C'est d'abord la paix, tout le monde est fatigué de cette guerre, mais surtout comprendre comment on peut contribuer efficacement à mettre un terme à ces violences.
La plénière de l'Assemblée nationale a entériné ce samedi les groupes parlementaires et a statué sur la répartition des postes au sein des bureaux des 10 commissions permanentes qui doit compter cette chambre. L'UDPS, force de 150 députés, prend les 4 commissions stratégiques, en plus les conseils de sages, laissant aux autres une commission chacun. Et l'opposition parlementaire prend la commission des droits de l'homme. À propos des animateurs de ces commissions, le président de l'Assemblée nationale recommande que les choix de ces tiennent compte de leur profil et de leurs compétences. Michel Kifindangoy.
Après la présentation des 21 groupes parlementaires constitués conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la plénière a statué sur la composition des bureaux des commissions permanentes. Le rapporteur Jacques Joly donne ici l'économie du tableau des répartitions des postes.
UDPS prendrait PAJ, ECOFI, Défense et Sécurité, Genre et Famille et Comité des Sages. AB, la socioculturelle, relations extérieures, AFDCA, UNC, environnement, MLC, aménagement du territoire, AAP, code, suivi évaluation. Ensemble, droit de l'homme.
Le président de l'Assemblée nationale insiste sur le profil des députés qui seront envoyés à la tête de chaque commission. Vital Kamere.
Quand vous allez choisir vos présidents de commission, quand vous allez affecter les gens dans les différentes commissions techniques, tenez compte du profil. Il ne faut pas envoyer un architecte pour aller présider la PS. Parce que si le président lui-même ne comprend pas la matière, il va diriger la commission.
Avant de passer à l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale a déploré le drame humanitaire causé par de multiples naufrages et accidents de circulation. Vital Kamerhe a aussi regretté le silence de la communauté internationale face à la crise sécuritaire en RDC.
À Kinshasa, la Journée mondiale des enseignants a été célébrée dans la méditation des enseignants du secteur public réunis au sein de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC ont profité de cette occasion pour interpeller les gouvernements à valoriser leur métier. Certains ont même menacé d'ester en justice contre l'État congolais pour son indifférence vis-à-vis de leur misère. C'est un reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
Chansons révolutionnaires, danses, cris de colère, les enseignants ont tout mis en contribution au cours de cette journée pour interpeller une fois de plus les gouvernements à améliorer leurs conditions socio-professionnelles. Ils ont tout de même salué les thèmes retenus au niveau mondial, à savoir valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social. Ces professionnels de la CRE ont estimé que ces thèmes coïncident avec les requêtes de voir les gouvernements leur payer des salaires décents. Certains ont même menacé de saisir les instances judiciaires pour dénoncer ce qu'ils qualifient de l'irresponsabilité de l'État congolais, comme indique l'un d'eux.
Nous sommes le premier pays qui paye très 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 mal le gens. C'est pourquoi je dis, nous allons cotiser 10 dollars dans toute la République. Nous allons accuser l'État congolais. Si vous ne donnez pas à manger à votre enfant, c'est que vous le tuez.
Pour sa part, la coordonnatrice du collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement COFEVID a invité toute la société civile à soutenir les revendications des enseignants.
C'est la société civile qui doit se mettre ensemble pour accompagner les enseignants. Mais l'Église aussi est dedans.
Des enseignants ont par ailleurs dénoncé des menaces et intimidations de la part de leurs chefs hiérarchiques au niveau des écoles.
Toutefois, la persistance de la grève des enseignants constitue un danger pour l'avenir de la nation en termes de relève et succession responsable. C'est en ces termes que le comité de sages du cadre des concertations de la Société civile du Congo central réagit à l'occasion de la Journée internationale de l'enseignant célébrée ce samedi 5 octobre. Son président Fidèle Moine Damikiama appelle pour ce faire le gouvernement à la conscience sociale en vue qu'il réponde urgemment aux revendications des enseignants. Le président du comité des sages du cadre des concertations de la Société civile du Congo central, Fidèle Moine Damikiama, est dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambo.
4 semaines sans fréquentation scolaire de nos écoliers, écolières, élèves depuis la rentrée scolaire en cours. Gouvernants comme politiques semblent insensibles à cette situation scabreuse. Les enfants vont dans les écoles sans apprendre. C'est l'avenir de la nation qui est en danger en termes de relève et succession responsable, car l'éducation est un pilier majeur pour une nation qui prépare sa prospérité à tous égards et sa relève. Nous exhortons donc les gouvernements à la conscience sociale en vue de résoudre les problèmes cruciaux posés par les enseignants pour que nos élèves, nos enfants, en d'autres termes, commencent de manière effective l'année scolaire. Ça urge.
Une partie de la ville de Likasi, dans les Haut-Katanga, est dans les noirs depuis environ 2 mois. Cette situation est causée par les vols des câbles. Conséquence, plusieurs structures, dont l'hôpital général des références d'Ako, ont du mal à bien fonctionner. D'autres détails avec le docteur Hugues Kiloufia, le médecin directeur de cet hôpital, joint par Jean Gandou.
Nous éprouvons des difficultés vraiment par manque d'électricité. La SNEL avait trouvé une solution pour nous connecter à la ligne Kakontwe qui dessert GCK et les autres mining qui sont de ce côté-là. Nous connaissons coupure intempestive. Alors par rapport à ça, nous éprouvons des difficultés dans le fonctionnement de l'hôpital. La morgue, comme vous le savez, c'est une morgue qui dessert toute la ville de Likasi, comme c'est un hôpital de l'État. Avec ces coupures intempestives du courant, on ne sait pas bien conserver les cadavres. Ça, c'est une grande difficulté. Du côté de la maternité néonate, avec l'élevage des prématurés, ça pose toujours problème. La stérilisation du matériel du bloc opératoire et certains appareils de réanimation, on ne sait pas les faire tourner pour une meilleure prise en charge. Nous avons quand même un groupe électrogène par rapport aux pistes des solutions. Un groupe électrogène qui ne fonctionne pas parce qu'on a connu une panne. Il y a un technicien qui travaille dessus, mais il n'a pas encore remis le groupe en fonction.
Le responsable de la SNEL à Likasi confirme que cette situation est due au vol des câbles souterrains moyenne tension. Cependant, indique-t-il, compte tenu du déficit de l'énergie électrique, la ligne sur laquelle l'hôpital a été basculé connaît un système de délestage. Les travaux sont en cours sur la ligne endommagée et la situation pourra être rétablie ce week-end. Poursuite de notre série de reportages sur les parkings publics à travers certaines villes du pays, cette fois-ci nous sommes dans la ville de Kinshasa, dans la capitale congolaise. Avec l'augmentation du nombre d'engins roulants, il devient difficile de trouver où garer son véhicule. Jusqu'ici, il n'existe pas de parking public à proprement parler. Dans la commune de la Gombe, par exemple, les véhicules sont stationnés le long du boulevard du 30 juin et sur les trottoirs, ce qui crée des embouteillages. John Tiboaboua décrit la situation.
C'est dans cette ambiance que la plupart des conducteurs se retrouvent au quotidien. Victoire, Pont Mandela, Gare Centrale ou Rond-Point Gaba, pour ne citer que ces lieux. Il est presque impossible de trouver un endroit où parquer. C'est la débrouille, ces conducteurs témoignent.
Je suis venu en ville et je devrais chercher quelque chose. Connaissant que parquer, ça devient un problème, je vais laisser ma Jeep au niveau de Stade des Martyrs.
Parking public ou pas, la police tente de remettre de l'ordre, mais cette recette est mal digérée par les Kinois.
On ne sait pas avec le roulage qui ne comprennent absolument rien. Vous parquez à n'importe quel endroit, on vient vous arrêter. Des fois même on prend votre véhicule pour partir avec. Mais l'État congolais devrait d'abord commencer par nous montrer là où on doit stationner. C'est-à-dire que construire des parkings officiels. Quand vous arrivez, vous allez parquer là-bas. Mais ici, Kinshasa, on ne comprend absolument rien.
Il faut cependant reconnaître qu'il existe des endroits qui ne sont pas des parkings publics, mais ont été aménagés pour abriter des véhicules.
Nous sommes le Congo Parking Service. Nous gérons le parking. nous travaillons avec l'hôtel de la ville. Bon, au moins, il y a plus ou moins 20 véhicules. Hein.
À côté de cela, il existe plusieurs initiatives privées tendant à créer des espaces devant servir des parkings. Mais à l'heure actuelle, elles sont dans un état de balbutiement.
Actualité internationale.
Le 9,7 millions d'électeurs tunisiens, selon les chiffres officiels, sont appelés aux urnes ce dimanche 6 octobre pour élire leur président parmi les trois candidats en lice. Le président sortant, Kais Saied, fait face à deux challengers, Zouhair Magzaoui, ancien député qui fut à la tête d'un parti nationaliste arabe, et Hayati Zamel, homme d'affaires actuellement en prison pour faux parrainage supposé.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal nous vient de Kindu, dans la province du Maniema. Il s'agit de Monsieur Waseka Kasumbi Mwalimu. Il est assistant principal du recteur de l'université moyenne Lualaba UML Kalima. Dans son entretien avec Florence Kizalunga, il parle des grands défis de cette université publique de l'État. Suivez.
Monsieur Waseka Kasumbi Mwalimu, bonjour.
Bonjour, madame.
Nous sommes à l'UML Kalima. Comment évolue cette université publique de l'État?
Oui, cette université publique de l'État congolais évolue très bien parce que malgré l'insuffisance de ses moyens, elle fournit un effort pour s'acquitter de ses obligations par une formation meilleure des enfants. Et au moment où vous arrivez ici, nous sommes déjà à la période des examens de fin d'année pour clôturer cette année sous la bénédiction de Dieu et que nous profitons de votre micro pour dire que l'année prochaine, nous nous engageons toujours dans notre obligation de formation que nous allons organiser les cycles de maîtrise. Alors, ayant déjà tous les atouts, nous avons le potentiel, nous avons le personnel qualifié pour ça et votre micro, nous profitons pour lancer un appel, un message, une information au public que l'année prochaine, l'université du Moyen Lualaba de Kalima va organiser le deuxième cycle du système LMD qui est celui de maîtrise.
Mais il semble que l'université Moyen Lualaba de Kalima est toujours locataire depuis tout ce temps. Qu'est-ce qui ne va pas?
Oui, bien sûr. L'université avait profité de la bonne foi de l'ancienne société Soumenki qui l'avait cédé les bâtiments, mais elle-même n'a pas ses propres bâtiments. C'est parce que malgré ses efforts pour avoir déjà un lotissement là où elle a déjà commencé à construire, étant limitée par ses propres moyens, elle n'est pas à mesure. C'est pour cette raison, faute de moyens, elle ne parvient pas toujours à achever ces projets-là de construction. Mais le projet est en cours, faute de moyens, faute de financement, on ne sait pas évoluer rapidement, mais du moins, c'est sa plus grande difficulté. Elle manque de moyens financiers pour achever son projet de construction sur les cités Kilomazi. Quand on parle de Kilomazi, les natifs de Kalima savent déjà localiser ces milliers.
Est-ce que vous avez un effectif requis dans votre université ici?
Oui, par rapport aux milliers, nous avons un effectif requis, mais bien sûr sous menace, parce que vous savez que avec vraiment la multiplication de quelques institutions privées qui viennent sacrifier les enfants en organisant les cours dans les après-midi, ne répondant pas vraiment au programme de cours tel que prévu et que les enfants veulent les raccourcis, donc Nzela et Mokuse, ils préfèrent aller là-bas. Mais du moins, ceux qui savent la valeur des études viennent ici chez nous et si ces institutions n'étaient pas là, l'UML devrait avoir un effectif vraiment acceptable et plus élevé.
À vous entendre parler, vous avez un sérieux problème des frais de fonctionnement. Comme vous manquez les frais de fonctionnement, est-ce que les systèmes LMD évoluent normalement dans votre université?
Oui, le système LMD évolue normalement, on le dira, parce que nous avons d'abord le commencement, ce sont les programmes de cours que nous avons. Et quand cela ne tienne, il faudrait aussi l'enrichir tel que repris dans les instructions ministérielles de chaque année, 024 et 025, mais qui demande des moyens. Par exemple, le système LMD demande d'organiser des cours à distance, des cours en ligne, il faut avoir des matériels informatiques et tout cela demande des moyens. Vous-même, vous avez été témoin. La connexion vous a fait défaut tout de suite là. Mais si on avait une meilleure connexion, ça allait aussi faciliter plusieurs histoires.
Mais monsieur Wasekwa, pourquoi vous vous attendez seulement de l'extérieur? Vous-même, vous n'avez pas des initiatives pour vous en sortir?
Oui, nous avons les initiatives, mais ça ne suffit pas. Il faudrait toujours avoir un petit plus. Vous voyez la qualité de notre connexion que nous avons ici. Nous l'avons d'abord, mais comme c'est limité par rapport à moyen, ça ne permet pas d'avoir un débit élevé pour nous faciliter de faire les histoires là. Mais avec le paix que les enfants donnent, et d'ailleurs, profitons de votre micro pour remercier tous les parents qui envoient leurs enfants ici, parce qu'ils contribuent d'une manière ou d'une autre au fonctionnement de notre université. C'est les moyens qui font défaut.
Alors, pour qu'il y ait amélioration, qu'est-ce qu'il faudra faire?
Oui, pour qu'il y ait amélioration, nous allons demander, par exemple, à notre ministère de bien s'occuper de ces institutions-là qui viennent se pililer dans le milieu et égarer les enfants, aller vers eux, et aussi appuyer cette institution qui est aussi un établissement public de l'État par des moyens financiers.
Monsieur Waseka Kasubi, Mwalimu, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie de plus.
Et c'est la fin de ce journal. Polydor Basunga a assuré sa mise en onde. Alain Irung et Jacques-Yves Molima l'ont supervisé et coordonné. Patience Ngalula Mbombo était à la présentation. Merci de nous avoir suivis.